Un réveil avec le journal de Catherine Dutu. Bonjour Catherine.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Des affrontements ont éclaté ce matin sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes entre des manifestants et des centaines de gendarmes qui mènent des opérations d'expulsion. Nous serons sur place dans un instant.
En Syrie, beaucoup de questions sur des frappes contre un aéroport militaire après une attaque chimique présumée à Douma, près de Damas.
Et le Pentagone réagit ce matin en assurant que ses forces armées ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie. Les cheminots toujours mobilisés en France contre la réforme de la SNCF, quatrième jour de grève perlé et le texte ferroviaire continue, lui, d'avancer au Parlement. Le projet d'une privatisation partielle de la Française des Jeux se précise. Quel intérêt pour l'État à se désengager des jeux de hasard tout en restant au capital? C'est l'analyse à suivre à la fin de ce journal dans le billet économique de Jean-Marc Chardon.
Et puis dans une quinzaine de minutes, la question du jour, Catherine. L'Arabie Saoudite, un partenaire particulier. On posera la question à Agnès Levallois, consultante spécialiste du Moyen-Orient.
Des grenades lacrymogènes dès 3 heures du matin. À Notre-Dame-des-Landes, les forces de l'ordre ont commencé leur opération d'expulsion des occupants de la ZAD. Des affrontements sporadiques ont déjà eu lieu aux abords de la fameuse route des chicanes, la départementale 281 qui traverse le site où un aéroport aurait pu voir le jour. La route des chicanes qui porte bien son nom puisque des zadistes, 250 personnes qui seraient encore sur place, ont monté de nouveaux barrages sur le bitume avec les moyens du bord. Bonjour Véronique Rebérotte.
Bonjour.
Vous êtes tout près de cette route des chicanes pour France Culture. La situation est donc tendue sur place entre les zadistes et les gendarmes?
Oui, depuis 3 heures du matin, vous l'avez dit, en pleine nuit, donc les gendarmes mobiles ont donc commencé leur intervention, un face-à-face un peu surréaliste dans ce bocage très boueux, très brumeux. Face-à-face concentré aux abords, effectivement, de la route des chicanes, la D281, toujours fermée à la circulation, malgré une remise en état ces dernières semaines, un peu compliquée, effectivement, par des voisins zadistes, difficiles à convaincre du retour à l'état de droit sur la ZAD. C'est là que les affrontements sont les plus durs, effectivement. Des bombes assourdissantes, du gaz lacrymogène tiré à profusion par les gendarmes, du gaz qui fait déjà des dégâts contre les zadistes.
Pour les yeux.
Ok.
C'est des yeux, ça?
Ouais, je vais plus dériver dessus de toi.
Dans les yeux?
Ouais.
C'est pas trop fort, le
non, gel? Non, c'est de l'eau. Non, ça fait ça. Ça lave.
Ah, merci. Il est bien piquant. On l'empêche complètement de passer, ils sont partout et ils bombardent, ils gazent. Il y a des...
Voilà, aidé de blindés légers, en tout cas les gendarmes ont commencé à dégager les carcasses de voitures et autres barricades de fortune posées cette nuit par les zadistes pour entraver l'avancée de ces gendarmes. Des zadistes assez nombreux à défendre leur bocage, comme ils disent, ils résistent comme ils peuvent en enflammant des barricades, des meules de foin poussées sur cette route des chicanes. On entend leurs cris dans la nuit qui répondent aux nombreux tirs de gaz lacrymogène, des cris qui viennent d'un peu partout, des champs alentours, on aperçoit leurs lampes frontales. Alors on ne sait pas pour l'instant si des habitations seront détruites par les gendarmes. On parle d'arrivée de huissiers sur la zone dès 6h du matin. On ne les a pas encore vus pour signifier à quelques zadistes, eh bien leur expulsion, des expulsions ciblées. C'est ce que fait savoir en tout cas le ministère de l'Intérieur, qui dit aussi que cette opération de gendarmerie qui mobilise en tout 2500 hommes, mais pas tous en même temps, 25 escadrons, devrait durer au moins 48 heures. À noter que côté zadistes, on fait état d'un blessé emmené par les gendarmes et d'une interpellation.
Et comment expliquer, Véronique, que les zadistes résistent encore à notre Notre-Dame-des-Landes, alors que le projet d'aéroport a été abandonné par le gouvernement il y a près de 3 mois maintenant?
Oui, alors aucun zadiste n'a pour l'instant répondu aux sollicitations de l'État, de la préfète de Loire-Atlantique, pour régulariser un projet de vie individuel, un projet d'installation d'une activité agricole au sens large. Alors l'État refusant ce que demandent les zadistes, la possibilité de gérer collectivement les terres de Notre-Dame-des-Landes, d'où leur maintien ici de ces zadistes, tous solidaires, disent-ils, pour réussir à obtenir une solution collective, une gestion collective des terres, et non pas à chacun pour soi que ces zadistes refusent. Maintenant, au sein, il faut bien le dire, d'un mouvement qui est quand même assez miné par des divisions internes entre ceux qui refusent catégoriquement les conditions de l'État pour être autorisés à rester et des associations qui prônent, elles, le dialogue.
Véronique Rebérotte, en direct de Notre-Dame-des-Landes, près de la route des chicanes. Merci pour ces précisions. Fabien Gosset était à côté de vous pour les moyens techniques. Les cheminots entament la quatrième journée de leur grève perlée. Le trafic s'annonce toujours très perturbé. perturbée, mais moins que la semaine dernière, avec un TGV sur 5 qui devrait rouler, un Transilien et un TER sur 3, un Intercité sur 6 aujourd'hui. Alors que le projet de loi sur le pacte ferroviaire arrive à l'Assemblée nationale, il permet notamment de recourir aux ordonnances sur certains points et d'engager rapidement la réforme de la SNCF. Le gouvernement souhaite l'adoption du texte avant l'été. Les grands axes de ce projet de loi, détaillés par Eva Gennac.
D'abord, le gouvernement s'attaque à la structure de la SNCF. Il veut modifier les missions, l'organisation, la gouvernance et la forme juridique de l'entreprise, de société publique en société anonyme. Cependant, pas question de parler de privatisation, le gouvernement l'assure. Les capitaux resteront 100% publics et incessibles. Le but ici, c'est de faciliter l'ouverture à la concurrence. Définir les modalités de cette ouverture à la concurrence, c'est le deuxième grand axe de ce projet de loi. Le gouvernement n'a pas le choix, il s'agit là de transcrire dans le droit français plusieurs législations européennes votées il y a 2 ans. C'est ce que l'on appelle le quatrième paquet ferroviaire. Le calendrier a déjà été dévoilé par la ministre. Les nouveaux opérateurs pourront faire rouler leurs trains dès 2019 en région, à l'exception de l'Île-de-France. Pour les TGV, ce sera 2020. Enfin, le texte prévoit la fin du statut des cheminots pour les futurs embauchés. À partir d'une date encore inconnue, ils bénéficieront des conditions de travail de tous les Français, celles du Code du travail, ce sont les mots du Premier ministre Édouard Philippe. Les échanges dans l'hémicycle doivent durer jusqu'à jeudi soir sur près de 300 amendements. Le vote sur l'ensemble du projet de loi aura lieu la semaine prochaine, le 17 avril.
La réforme de la SNCF qui avance au Parlement, la bataille se joue aussi dans les médias. Édouard Philippe enchaîne les interviews en attendant celle d'Emmanuel Macron jeudi sur TF1. Hier, dans une tribune au JDD, le ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, a défendu la réforme de la SNCF en expliquant, je cite, que l'on ne peut pas rester indifférent face à la dégradation de ce service public, de ce bien commun. Une communication de l'exécutif plus maîtrisée que la semaine dernière. On y revient dans le journal de 7h30.
7h07, la suite du journal de Catherine Dutu sur France Culture. Plusieurs missiles ont frappé ce matin à un aéroport militaire syrien dans le centre du pays. Plusieurs morts et personnes blessées, mais pas de bilan précis pour le moment.
Une attaque dont l'origine reste d'ailleurs encore à déterminer. Les États-Unis assurent que leurs forces armées ne mènent pas de frappes aériennes en Syrie. Washington et Paris qui avaient brandi ces dernières semaines la menace de frappe en cas d'attaque chimique. Or, samedi, dans la ville insurgée de Douma, dernier bastion tenu par des rebelles islamistes près de Damas. Certains ont dénoncé une attaque chimique présumée et en fait des dizaines de morts. Donald Trump et Emmanuel Macron ont convenu cette nuit que le régime du président Bachar al-Assad devait en être tenu responsable, se prononçant également pour une réponse forte et commune. En attendant une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, aujourd'hui à 15h à New York, 21h heure de Paris, sur le terrain, dans la ville de Douma, la situation est dramatique, comme le raconte Anas Shaker, porte-parole de l'ONG médicale, l'Union des organisations de secours et soins médicaux.
Il ne reste pas beaucoup de médecins sur place. Déjà, c'est une région sous blocus total depuis plus de 5 ans. Rien ne rentre, rien ne sort. Des moyens très, 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 très pauvres. L'hôpital central de la ville de Douma a été bombardé, ainsi que le centre de la Croissance Rouge syrienne. Ce qui reste, c'est vraiment très dérisoire. C'est impossible de prendre en charge des blessés avec un tel nombre. En 5 à 10 minutes, si le traitement adéquat n'est pas utilisé, la mort est sûre et certaine. Il faut des antidotes, que ça coûte très cher. C'est que les moyens ne permettent pas actuellement dans cette région d'apporter ou de donner, d'administrer des antidotes spécifiques à cette intoxication.
Anas Shaker, le porte-parole de l'ONG médicale, l'Union des organisations de secours et de soins médicaux, il répondait à Christian Chesneau. Son parti national conservateur a une fois de plus écrasé les élections législatives en Hongrie avec près de 49% des voix, 30 points devant son premier concurrent, le Jobbik, parti d'extrême droite. Le premier ministre Viktor Orban peut désormais espérer un troisième mandat consécutif, lui laissant toute latitude pour amplifier la centralisation des pouvoirs et de poursuivre ses passes d'armes avec l'UE contre les migrants notamment. On y revient dans le journal de 7h30. Les ONG de défense des droits de l'homme ne digèrent pas son dîner hier soir au Louvre. Le prince héritier d'Arabie Saoudite Mohamed Ben Salman a déjà rencontré Emmanuel Macron en tête tête-à-tête hier soir au Louvre donc. Mohamed Ben Salman en visite officielle en France. Il souhaite présenter son pays sous un jour plus positif, avec de nouveaux droits ouverts aux femmes ou un lancement de partenariats culturels. Mais les ONG rappellent que l'Arabie Saoudite est dans le peloton de tête des pays qui pratiquent la peine de mort et que les droits des femmes ne sont pas si ouverts que cela. Mohamed Ben Salman, qui est par ailleurs initiateur de la guerre qui ensanglante le Yémen depuis 3 ans, et justement des représentants de la société civile yéménite sont également présents à Paris depuis plusieurs jours. Ils n'ont pas eu l'occasion de rencontrer le prince héritier, mais ils ont confié à Éric Biégala ce qu'ils auraient bien voulu lui dire.
Pour ce qui est d'interpeller Mohamed Ben Salman, tout dépend en fait pour ces Yéménites de la région du pays d'où ils proviennent. Tamim Al-Boulrakik, par exemple, est directeur d'une ONG humanitaire à Aden, dans le sud du pays. Et quand on lui demande quel message il voudrait adresser au prince héritier d'Arabie Saoudite, on a cette réponse un peu surprenante.
D'abord, un remerciement à lui et aux Saoudiens pour ce qu'ils ont fait pour le peuple yéménite.
À Aden, en effet, les bombardements aériens de l'Arabie n'ont pas fait trop de victimes, comme le confirme Safa Mourad Rafik, coordinatrice d'une autre ONG, également basée à Aden.
Pour nous, les habitants du Sud, on voit différemment la situation que les habitants du Nord, parce qu'on considère que Mohamed Ben Salman a réussi à repousser les Houthis qui nous attaquaient. Mais la guerre entre les Houthis et l'Arabie Saoudite a duré que quelques mois à Aden, mais ça continue. Donc on voudrait une solution pour tout le Yémen.
Ailleurs dans le pays, c'est sensiblement différent. À Taiz, dans le centre du Yémen, par exemple, où la ville est partagée entre rebelles Houthis et combattants appuyés par l'Arabie Saoudite, Lina habite à Taiz.
En tant que partie au conflit, je demanderai l'arrêt de la guerre au Yémen, l'ouverture des accès au Yémen, donc les ports et les aéroports, mais également un meilleur accès à l'intérieur du pays pour les déplacements.
L'Arabie de Mohamed Ben Salman exerce en effet un quasi-blocus sur le Yémen. Et puis il y a la capitale du pays, Sanaa, contrôlée par les rebelles Houthis et qui reçoit le plus gros des bombardements aériens. Nabil Al-Kumaim y demeure, il est le directeur adjoint de la Yemen Family Care Association.
Il devrait être suffisamment malin pour arrêter cette maudite guerre. Parce que cette guerre ne tue pas des Houthis. Cette guerre tue des enfants yéménites, des femmes yéménites, le peuple yéménite. Tout le monde peut le constater. Après 3 ans de destruction et des milliards de dollars dépensés pour cette guerre, aucune des parties au conflit yéménite ou autre n'a remporté la moindre victoire.
Selon le bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies, 6000 civils ont été tués en 3 ans de guerre au Yémen, la grande majorité d'entre eux du fait des bombardements aériens saoudiens.
Il continue de dénoncer un climat de violence insupportable dans certains lycées et collèges de Seine-Saint-Denis. Des parents d'élèves et des professeurs dénoncent également l'absence de réaction que ce climat suscite. Reportage à suivre à Stein dans le journal de 7h30.